Variation.
Variation.
Poésie, politique,
mise en voix,
mise en bouche, la poésie sauvage ou l'ivresse des mots, la poésie sauvage ou l'ivresse des mots,
de la poésie qu'on débouche,
poésie qu'on débouche, du politique qu'on éclate,
du politique qu'on éclate. Tous les troisièmes mardis du mois à 11h
et rediffusion le dimanche à 13h.
Écoutez, mon père, le sang qui bat trop fort et demande à sortir. Écoutez le flot montant du plaisir que nul amour ne purifie. Connaissez-vous, mon père, le sang des filles qui jaillit sur la chair blanche en ruisseau de feu? Touchez mes seins, touchez mes hanches. J'ai dans tout le corps une mer violente et douce qui coule lentement, hors de moi, hors de moi. Mon père, il faut m'exorciser. Exorcisez-moi. Déchirez ma chemise. Griffez ma peau fragile. Écrasez ma chair dans vos mains, dans vos bras.
Commençons par un préliminaire.
J'adore les personnes qui me bouffent la chatte.
C'est un bon préliminaire.
Ça me fait penser à mon enfance.
Vous êtes...
Stop.
Je me retiens.
Non.
Il faut comprendre que parmi les désirs, les uns sont naturels et les autres vains. Et que parmi les désirs naturels, les uns sont nécessaires et les autres seulement naturels. Enfin, parmi les désirs nécessaires, les uns sont nécessaires au bonheur, les autres à la tranquillité du corps et les autres à la vie elle-même. Une théorie véridique des désirs, c'est rapporter les désirs et l'aversion à la santé du corps et à l'ataraxie de l'âme, puisque c'est à la fin d'une vie bien heureuse que toutes nos actions ont pour but d'éviter à la fois la souffrance et le trouble. Quand une fois nous y sommes parvenus, tous les orages de l'âme se dispersent, l'être vivant n'ayant plus alors à marcher vers quelque chose qu'il n'a pas, ni à rechercher autre chose qui puisse parfaire le bonheur de l'âme et du corps. Car nous recherchons le plaisir, seulement quand son absence nous cause une souffrance. Quand nous ne souffrons pas, nous n'avons plus que faire du plaisir. Et c'est pourquoi nous disons que le plaisir est le commencement et la fin d'une vie bien heureuse. Le plaisir est en effet considéré par nous comme le premier des biens naturels et c'est lui qui nous fait accepter ou fuir les choses. C'est à lui que nous aboutissons en prenant la sensibilité comme critère du bien. Or, puisque le plaisir est le premier des biens naturels, il s'ensuit que nous n'acceptons pas le premier plaisir venu, mais qu'en certains cas, nous méprisons de nombreux plaisirs, quand ils ont pour conséquence une peine plus grande. D'un autre côté, il y a de nombreuses souffrances que nous estimons préférables au plaisir, quand elles entraînent pour nous un plus grand plaisir. Tout plaisir, dans la mesure où il s'accorde avec notre nature, est donc un bien, mais tout plaisir n'est pas cependant nécessairement souhaitable. De même, toute douleur est un mal, mais pourtant toute douleur n'est pas nécessairement à fuir. Il reste que c'est par une sage considération de l'avantage et du désagrément qu'il procure que chaque plaisir doit être apprécié. En effet, en certains cas, nous traitons le bien comme un mal et en d'autres le mal comme un bien.
Le jour où on a découvert le bordel, c'était Jean-Jean Burgani, je crois bien, ou peut-être Raymond Pélissia qui nous avait donné l'idée, un dimanche. Il avait des ronds dans sa poche, envie d'aller au claque, pas envie d'y aller tout seul, ou pas le courage. Il en connaissait un très chouette où qu'on t'emmerdait pas pour l'âge réglementaire, du moment que tu portais pas des culottes courtes, et que t'avais le prix de la passe dans la poche, naturellement. La patronne me connaît, je dirais que vous êtes des copains. Et bon. Ça se trouvait à Paris, rue de l'Échiquier. La rue de l'Échiquier donne dans la rue d'Enghien. La porte d'entrée, discrète. Hôtel de je ne sais plus quoi. J'y vais les yeux fermés, j'ai jamais fait gaffe au nom du truc, c'est marrant. Tu pousses la porte, tout de suite un escalier, raide, droit devant. On grimpe à la queue leu-leu, moi le cœur cognant comme à ma première communion. On avait mis Pierrine, qui avait 13 ans et en faisait 12, entre Roger et moi, les seuls pouvant à la rigueur prétendre avoir les 18 ans. À condition qu'on ne nous demande pas les papiers. D'abord des papiers, on n'en avait pas. Pas un de nous. Jean-Jean m'avait expliqué. Tu comprends ? Il y a une marche. Tu sais pas laquelle. Quand tu poses le pied dessus, ça appuie sur un bouton. Alors là-haut, il y a une lampe qui s'allume. La patronne sait que du monde s'amène. Elle se démerde pour qu'il y ait personne dans l'entrée. C'est pour pas risquer que des clients qui se connaissent dans la vie se rencontrent au bordel. Tu comprends, ça pourrait faire des salades. Suppose que tu te trouves nez à nez avec ton beauf. Ah le fumier. Comme que je cavalerais à franchir ma frangine, tiens. Bah voilà, t'as tout compris. Là-haut, une espèce de petit palier avec un petit comptoir, comme la caisse de la caissière de chez Félix Potin. Des grosses plantes vertes dans des gros pots verts, très chics. Sur le comptoir, un vase avec des fleurs. Je sais que les plantes sont vertes parce que les plantes, on sait que c'est vert. En vrai, elles sont vieux Lévinas à cause de la lumière rose. Il y a une lampe avec un abat-jour rose et des perles en bois. Ça donne pas beaucoup de lumière, une lumière rose. Tout est rose, sauf les plantes vertes. Tellement vertes que ça fait, comme je disais, un mélange dégueulasse, mais je regarde pas spécialement les plantes vertes. Je regarde la dame qui nous accueille, une dame très bien, un peu plâtreuse, mince, robe noire, tout à fait comme il faut, collier de perles, chignon, talons hauts, 40, 45, on dirait une patronne à maman, très distinguée. C'est avec elle que j'ai envie. Elle nous dit « Bonjour mes chéris ». Vu de près, c'est plutôt 50-60. Le plâtre et la lumière rose, ça aide bien. Elle nous embrasse l'un après l'autre, sur la bouche. C'est gentil comme tout, très en famille. Je voyais pas ça comme ça, je sens que ça me rassure. « Alors mes chéris, on vient prendre un peu de bon temps. Vous avez bien raison, c'est de votre âge, mais restez pas là dans le passage. » Elle tend la main, paume en dessus. Jean-Jean raque pour tout le monde. Elle demande « T'as une idée de ce que tu veux, mon grand ?» Jean-Jean dit « Fais-nous venir un choix, on choisira ensemble, très archiduc. »« Comme vous voulez, le client est roi. » Elle ouvre une porte. On entre. C'est un petit salon avec juste un canapé contre le mur face à la porte. Elle sort, referme la porte. Je suis ému, les autres aussi, bien qu'ils jouent les caïds. On se carre dans le canapé, bien à fond, le dos appuyé au rembourrage. Une jambe passée sur l'autre, des sultans qui attendent l'arrivage d'esclaves fraîches. On se regarde en se marrant, instant puissant. Au mur, il y a des cadres dorés avec des dessins en couleur, comme on le voit dans la vie parisienne et les journaux cochons. Et voilà, la porte s'ouvre. Une, deux, trois, six bonnes femmes s'amènent, se plantent en face de nous, debout en rang d'oignons, habillées, maquillées comme pour sortir, tailleurs, ou robes, ou jupes, pull-over, chapeaux, chaussures, sacs, sauf une, en liquette, transparente avec de la dentelle et les nichons qui passent à travers, c'est calculé pour. Elles sont là rien que pour nous. On a le droit de choisir. Si je dis « celle-là », j'aurai celle-là. J'en ferai ce que je voudrais, je farfouillerai partout, je regarderai, je reniflerai, je coûterai bien à mon aise. Oh merde, c'est incroyable, c'est Noël, je suis excité comme un fou. On est là, constate. Elles nous regardent, gentilles, des yeux de gros chiens perdus qui veulent se faire adopter. Nous clignent de l'œil, se passent un bout de langue sur les lèvres. Si l'une voit que je la regarde un peu plus longtemps, elle me fait un signe de tête plein d'espoir. Merde, les mecs, c'est là que tu te sens quelqu'un. Je choisis celle en tailleur noir, très stricte, très dame. Ça me fait plaisir dans ma tête d'imaginer que cette personne si convenable, si boutonnée, au maintien modeste, au visage sérieux et même un peu sévère, qui pourrait être ma mère, mais en plus chic, possède là-dessus un gros cul blanc, un paquet de poils noirs frisés et une motte marron avec une fente rose qui pue monts et merveilles quand on l'ouvre tout doucement. Le contraste, quoi, le sacrilège. Enfin bon, c'est dans la tête que ça se passe. Je dois être un petit peu compliqué, faut faire avec. La salope à moitié à poil avec sa chemise transparente qui lui colle aux miches et ses gestes salaces me laisserait plutôt froid. Pas Roger qui se l'embarque d'autor et sort le premier. Je me lève et vais droit à ma grande femme honnête de peur que quelqu'un d'autre me la fauche. Elle me sourit. « Je te plais, chérie, je suis heureuse. » Je bafouille je ne sais quoi, elle me prend par la main, m'emmène par un couloir, s'enfile dans un escalier étroit avec un tapis dessus, moi derrière elle. Ses jambes bien roulées, un peu grosses, bougent au ras de mon nez. La couture de ses bas de soie monte se perdre dans le pays mystérieux, là-haut, sous la jupe moulante. Son cul aussi, immense et grave, d'un mur à l'autre. Une tendresse m'empoigne, énorme. Je n'y tiens plus, je lance ma main sous la jupe. J'atterris à cheval sur la frontière entre soie et peau. Peau douce, invraisemblablement. Peau où reposer sa joue. Peau à vous guérir de toute peine. Elle tourne la tête, me sourit. Je remonte jusqu'à l'entrecuisse, plaque ma main contre le paquet, paume en conque, toute la motte dans le creux de ma main, dodue, chaude, vivante, je trique à en avoir mal. La chambre, je ne l'ai même pas regardée. Il y avait un lit, ça je me rappelle, très large, fait bien au carré, et un lavabo. Je la prends aussitôt dans mes bras. Je vais pour l'embrasser sur la bouche. L'amour, ça commence toujours comme ça, non ? Elle détourne la tête. « Non, mon chéri, ça je le donne qu'à mon homme. » Câline. « Dis donc, mon petit cadeau, tu préfères pas me le donner maintenant ?» Son petit cadeau ? Merde, mais faut encore hacker. Il n'avait pas dit ça, Jean-Jean. Je dis « Combien ?»« ce que tu veux, si t'as 10 balles, ça ira. » Oui, bah, 10 balles, je les avais pas. J'ai retourné mes poches, ça faisait 3 francs et des centimes. Elle a tout ramassé, j'étais gêné. Pas tellement pour mes sous, mais parce que je me sentais tout con de ne pas être au courant des usages. Elle m'a vu emmerder, m'a caressé le menton. « T'es jeune et t'es beau gosse, ça compensera. »« Beau gosse ?» Personne ne m'avait jamais dit ça. Même venant d'une pute qui devait débiter la même vanne à chaque client, ça m'a fait toute chose. La voilà qui se déshabille, moi qui la regarde. C'est-à-dire, elle a juste ôté la veste de son tailleur et sa jupe, elle a posé ça bien proprement pliée sur la chaise, elle a dégringolé vite fait sa petite culotte lila avec des dentelles champagne, et comme j'attendais de voir s'envoler le reste, surtout ses nichons, j'aurais voulu voir jaillir, il tendait la veste du tailleur à faire péter la boutonnière. Je me les rêvais gros, chauds et doux, bien serrés l'un contre l'autre, très blancs, avec de larges, longues pointes granuleuses, couleur de peau de couille. Ouais, bah Nib, son corsage et la liquette, elle les a gardés, et elle m'a dit « Eh bien, mon chéri, qu'est-ce que tu attends ? Tu sais, un quart d'heure, c'est vite passé. » Et madame a vachement l'œil.
Déshabillez-moi. Déshabillez-moi. Oui, mais pas tout de suite. Pas trop vite. Sachez me convoiter. Me désirer. Me captiver. Déshabillez-moi. Déshabillez-moi. Mais ne soyez pas comme tous les hommes oppressés. Et d'abord le regard, tout le temps du prélude, ne doit pas être rude, ni hagard. Dévorez-moi les yeux, mais avec retenue, pour que je m'habitue. Peu à peu, déshabillez-moi, déshabillez-moi, oui mais pas tout de suite, pas trop vite, sachez m'hypnotiser, m'envelopper, me capturer. Déshabillez-vous.
Pépite de peau. Douceur décadente. Parfum de sperme. Boule de sang. Pipe à la bouche. La musique est douce. La mesure est dansante. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Hors d'elle, le cri d'ivresse. Hors de lui, il se camisole. Orbite en chatte et creux en trou. Il arpente le crépi des murs pour s'engager tendrement dans ses recoins. Et il s'enfonce, et il s'enfouit, et il s'agrippe. Et elle s'harmonise, et elle gémit, et elle en rit. 2, 2, 3, 2, 2, 3, 2, 2, 3. À quatre pattes et sans frontières. À poils, à plumes et à cuirasses. Accoudée à l'audace de sa cyprine gluante, émerveillée, elle s'embrase en libérant ses spasmes pour cavaler parallèlement à ses désirs, sentir la chair dans la chair de ses ovaires et continuer à crier, à hurler, à ébranler. 3, 2, 3, 3, 2, 3, 3, 2, 3. Comme ils sont deux, ils chantent ensemble, comme un seul être d'une seule voix avec une corde. Comme si demain n'existait pas seulement maintenant, sans réfléchir. Piste de danse et couverture de peau, ils sirotent la fine couche de foutre pourtant ardente. Prêchent la sainte mère et la tartine de leur amour, en rythme et en chair, en ondulation et en chute. 2, 2, 4, 2, 2, 4, 2, 2, 4. Obnubilés par le rythme, ils écartent davantage leurs cuisseaux, extirpant sans cesse de nouveaux tempos, reculant sans cesse la fin de leurs morceaux. Ils s'oublient encore et encore et encore, peau à peau, veloutés de chair timorée et malicieuse, posent leurs mains essoufflées de même que leur sexe. Mais sans plus pouvoir stopper rien qui les ralentit, ils aiment à se balancer ensemble encore et encore et encore. 2, 2, 6, 2, 2, 6, 2, 2, 6, 2, 2, 6, 2, 2, 6, 2, 2, 6. Respire, se berce, s'enveloppe, se suce et se scrute, osant davantage s'y perdre, sans reprendre haleine, simple bouffée de sperme, à s'en foutre, jouant de nouveau une mélodie tonitruante, il s'essouffle, carapace en velours, regard juvénile. Comme si la première fois était passée, qu'il ne restait plus qu'à s'endormir, l'un dans l'autre, à poil, vierge de plaisir, étonné et jouissant. 3, 6, 9, 3, 6, 9, 3, 6. Suffit la cadence, éparse les membres, dérythmés les odeurs. C'est la fin. Ils catapultent leurs désirs, s'embrassent, s'embrassent. Une violente vitalité extirpée de leur corps les emporte de leur petite mort. Une subtile conclusion les tient, les envahit, outre-mer et perdue. Une splendide somnolence les agrippe, festin fignolé et dévoré. Ils soufflent, libèrent le métronome, s'évanouissent, vacillent. Ce nouveau chant achevé s'endorme, tout simplement.
1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3.
Dehors, la pluie est fine. Dehors, l'herbe jubile. La porte est restée ouverte naturellement sans mêle. Le fond du jardin a joui sans démesure, en rythme, en voix et en chair. Le ciel les couvre, la bruine les regarde, les myosotis s'ébahissent. S'achève la douce joie de deux amants cachés.
Ronnie, dieu nègre à la peau braisée et calcinée, au parfum d'orchis et de gingembre, au sexe comme un grand lys noir. Ronald Rodwell au visage de panthère, au front lisse d'orchidée, aux épaisses lèvres fendues comme une écorce. L'iris violacé de tes yeux est un puits profond, il est ma nuit, mon alcool, ma drogue. J'ai bu à la pointe de ton sexe une liqueur au goût de soufre et d'ammoniaque, je me suis abreuvé aux sources salées de ton ventre, aux grains de raisin bleu de ta poitrine. J'ai frémi sous tes cuisses dures, lentes à l'assaut, et déchaîné ensuite comme un océan furieux. J'ai crié, j'ai hurlé, j'ai agonisé sous la morsure de ta lame d'ébène, ces brûlures, ces déchirures au profond de mon ventre. Tu m'as tué, tu m'as ressuscité, et je n'en finis pas de revenir à la vie dans le limon de nos jouissances mêlées entre tes deux pitons noirs qui m'en serrent. Rodwell, la première fois que je t'ai vu, c'était au café Birdland, assis à une table riant de tes dents écarlantes. Tes yeux étaient cachés sous les verres de tes lunettes vertes. Tu m'as soulevé dans tes bras et nous avons dansé, nous avons oscillé dans le blues et ta voix était laminée comme celle de Ray Charles. Que celui qui n'a pas véritablement aimé jette ce livre à la poubelle. Il y sera plus au chaud et au tendre dans les ordures que dans ses mains. Rodwell. Dans ma petite chambre aux parois de carton, éclairée par des lanternes japonaises, une bleue et une verte, suspendue à un fil et dangereusement illuminée d'une bougie, je t'ai invité à écouter des disques. Tu t'es couché sur le lit. Nous avons écouté les violons de Tsigane et les quatre clavecins de Bach. Avant que tu partes, je t'ai embrassé sur le pas de la porte. C'était tout. pas un mot, pas un geste. Quand tu es revenu le lendemain, nous sommes devenus des amants. Dans tes bras, j'ai pleuré, et tu m'as dit en buvant mes larmes sur ma joue, « Un jour, je te ferai pleurer de joie. » Rodwell, tu as 19 ans, Ronald Rodwell, et tu conduis pendant le jour une ambulance de l'hôpital américain militaire. J'ai encore cette photo où tu ressembles à un scaphandrier sous ta carapace de soldat et tu tiens un fusil. Rodwell, toi l'homme de paix. J'ai toutes tes lettres, toutes, et je vais les relire. J'ai sur ma table cette mince bande d'étoffe blanche avec ton nom, Rodwell, brodée en noir, que tu avais détaché de ta manche d'uniforme. J'ai ton portrait au-dessus de mon lit, toutes tes photos au mur, tes yeux et ton sourire dévorent ma chambre. Rodwell, il n'y a que ton visage, tes dents, ton regard et la sourde luisance de ta peau de noir sur les parois blanches. Seule chose pour laquelle il vaut la peine de vivre. Oscar Wilde.
J'étais là sur le bordel chez moi, il y avait vraiment le cliché de la fille qui veut pas prendre soin d'elle, donc c'était dégueulasse. J'avais de la bière à côté de mon lit avec des restes de manger. Bref, et j'avais très très envie de me faire du bien, mais je ne savais pas comment faire. Puis je me dis, bon allez, lance-toi. Je pense que je me suis mis en culotte, t-shirt, sous ma couette. Et au début, j'essayais de dormir, je n'arrivais pas. Et puis au fur et à mesure, je me suis mise à me toucher. Et j'essayais vraiment plusieurs trucs. Alors après, ça ne marchait pas. Donc du coup, j'essayais de me rendormir. Puis je recommençais en me disant, allez, vas-y, quand même. Je me doigtais, j'essayais de me faire mouiller, j'essayais aussi de mettre mon coussin sur ma tête, de mordre mes doigts, de toucher mes seins. Et du coup, j'essayais vraiment de me concentrer sur mon plaisir, mais j'avais vachement de mal. Et du coup, j'allais vite, et puis tout d'un coup, j'allais doucement. Enfin, j'essayais de trouver des mouvements, des diagonales, des frottages plus ou moins forts. Et j'essayais de penser à des choses qui me ramenaient à une forme d'érotisme. Je pense que comme je mouillais beaucoup aussi, je devais jouer avec ma mouille un peu, c'est-à-dire je devais... essayer de lécher, de jouer même avec mes sécrétions. D'utiliser le plus de zones érogènes de mon corps, donc je m'agrippais aussi les cheveux de ma nuque, je me mordais, voilà, j'essayais de recréer une sorte de voracité qu'on a quand on a une bonne partie de jambes en l'air. Je sens qu'il y a une espèce de montée en moi de chaleur et de plaisir qui imperceptiblement fait surface comme ça. Monte, mais doucement, et puis c'est au moment où genre vraiment ça... Putain, j'y suis presque. Et là, ça monte. Puis dès que je me dis ça, à chaque fois, ça redescend, quoi. Je me dis, putain, c'est vraiment relou. J'essayais particulièrement de me concentrer sur son corps que j'avais encore en mémoire, sur des odeurs. Monte, mais doucement, et puis... J'avais du frisson sur les jambes, mes poils, tout était hérissé, quoi. Je sens que ça monte, mais là, de façon hyper puissante. J'ai hurlé, mais genre, j'ai dû hurler. Et surtout, ça a été très long. C'était un de mes orgasmes les plus longs de ma vie, quoi, vraiment. Quand ça s'est terminé, je me suis endormie direct. Oh, c'est bien. Le fait de me faire jouir, c'était de le faire... toute seule et d'y arriver toute seule pour la première fois, quoi. J'étais mais heureuse comme jamais en me disant mais ça y est, bon ok, je suis toujours triste, mais au moins je pourrais être indépendante à ce niveau-là, je sais maintenant comment me faire jouir. J'ai envoyé un maximum de messages. J'ai enfin réussi à me faire jouir, mais genre c'était écrit en mille. Genre forcément tout le monde était mort de rire autour de moi, enfin en me disant mais t'es complètement taré, enfin d'annoncer ça comme ça. Mais j'étais là, mais comment ça se fait qu'on n'en parle pas assez, enfin de
Arte.
Et j'en ai parlé après, mais pendant des jours à tout le monde que je croisais, à des garçons.
Radio.
Et ils étaient tout rouges, un peu gênés. Et souvent, ils me disaient, c'est tard, mais c'est cool, mais...
Quoi ?
J'ai pas envie de le savoir, enfin, garde ça pour toi.
Comme.
Laisse-moi t'aimer, je veux de la chair. Un poème de drap sali, laisse-moi lécher tes aisselles.
Oh, laisse-moi lécher tes...
Laisse-moi renifler ta gorge. Laisse-moi mordre ton téton, attraper ta chevelure et lorgner ton sexe sans attendre. Je veux t'aimer par tous les pores de ma peau. Je veux du sang, du trash, du coulant. Je veux des gestes virulents, je veux des cris sans voix et des humeurs débordantes. Je veux ta peau qui crie sous mes ongles, je veux ton cul, je veux ta salive dans ma bouche, je veux ton rire et tes larmes en même temps. Je te veux toi, nu sous mes doigts. Laisse-moi te pénétrer. J'aime ton anus et ton foutre, et te sentir partir sans plus réfléchir. Je voudrais que cela ne s'arrête jamais. Je voudrais t'avoir encore et pour tout le temps. Je voudrais que les frontières se brouillent, que nous ne fassions plus qu'un, que nous sachions oublier qui nous sommes, que la fougue nous emporte, nous broie, nous ligote, que je te ligote, te menotte à mes hanches, que tu me suces sans cesse, s'il te plaît.
Laisse-moi t'aimer.
Laisse-moi t'aimer.
Laisse-moi t'aimer toute une nuit.
Ce soir, je vais au sauna avec maîtresse Irina. Ça fait bien longtemps que j'en rêve fébrilement, mais j'avais jamais osé passer la porte. Prise en sandwich entre l'incandescence d'un fantasme qui me brûlait le ventre de désir et la peur panique d'être confrontée à de complets étrangers qui partagent de la sexualité. Plongée dans un inconnu qui me foutait un vertige infini, j'ai passé des années à me contenter de l'image masturbatoire que cela m'évoquait, avant de réussir avec l'aide d'une amie à dépasser cette peur. On arrive, on gare les vélos, couple, 10 euros. Je me fous à poil. Elle garde son accoutrement de dominatrice, des talons hauts, des bas noirs, une robe très courte et extrêmement moulante. Je porte son sac dont dépasse sa cravache. Sur la gauche se trouve le bar, derrière, un très beau PD torse-poil en guise de barman. Sur la droite, la zone humide. Douche avec glory hall, sauna, hammam et immense jacuzzi. Sylvain, une connaissance d'Irina, me fait visiter cette zone car elle ne peut y aller habillée. Nous montons à l'étage où se trouve, outre le fumoir, un dédale de couloirs et de cabines toutes différentes. Certaines ont un matelas au niveau du sol, d'autres un matelas rond à hauteur de lit. D'autres encore ont des slings, certaines des portes, d'autres des rideaux de cordes. On fume une clope et on redescend au bar. Je prends une douche. Un couple hétéro d'habitué des lieux n'a deux yeux que pour maîtresse Irina et son attirail. Je ne sais pas où me mettre. Elle dit à tout le monde que c'est ma première fois. On monte avec le couple. Le mec aimerait bien se faire dominer. Irina va montrer à la meuf comment s'y prendre pour le mater. Elle me donne à moi la mission de déambuler dans le labyrinthe à la recherche de quelqu'un qui me plaise. Je croise plusieurs mecs, la serviette autour de la taille, qu'une main tient négligemment. De mon côté, j'ai opté pour un pareo flamboyant, semi-transparent, la serviette sur l'épaule. Avant de venir, Irina m'a prévenu. C'est pas très verbal ici. Un regard, ça veut dire « tu me plais ». Si on te dévisage de haut en bas, c'est « viens dans une cabine ». Les regards hétérosexuels se détournent du mien. Je passe devant une cabine avec quelques trous entre les planches, fait pour assouvir mon instinct de voyeur. Je regarde entre les planches. Une pénétration hétérosexuelle en position debout s'y déroule avec délice si on y croit les cris qui s'en échappent. Dans le couloir, une télé diffuse des images pornographiques en continu. La gêne ressentie au départ se transforme lentement en excitation. Je touche mon sexe, il gonfle. Je retourne voir Irina qui est toujours avec le couple. La nana se fait masser les pieds par son mari, très amusée. On monte au donjon voir ce qui s'y passe. Une femme très enthousiaste se tient sur ses genoux, ses bras levés au-dessus de sa tête, attrape une barre métallique dont pendent des colliers en cuir au bout d'une chaîne. Autour d'elle, 6 ou 7 hommes s'affairent, tous à une main, l'autre étant occupé. L'un lui caresse le sein droit, tandis qu'un autre la doigte à 2 doigts. Un autre encore lui pose des petites claques sur les fesses, d'autres lui caressent le reste du corps. Elle hurle de plaisir lorsqu'on entre dans la pièce. On sourit, on commente, sa jouissance est belle à voir. On finit par redescendre et je dis à Irina que je pense être prête pour la séance de fessée qu'elle m'a promise. Variation.
Variation.
Poésie qu'on débute de politique, on éclabousse de la poésie qu'on débute de politique.
Mise en voix.
Mise en bouche.
La poésie sauvage ou l'ivresse des mots. La poésie sauvage ou l'ivresse des mots.
De la poésie qu'on débouche.
Poésie qu'on débute de politique, on éclabousse.
De politique qu'on éclabousse. Tous les 3e mardis du mois à 11h.
Et rediffusion le dimanche à 13h.
Écoutez.
Il s'est levé à mon approche, debout il était plus petit. Je me suis dit, c'est dans la poche, ce mignon-là, c'est pour mon lit. Il m'arrivait jusqu'à l'épaule, mais il était râpé comme tout. Il m'a suivi jusqu'à ma piole, et j'ai crié, vas-y mon loup, fais-moi mal, Johnny, 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 envoie-moi au ciel, zoom, fais-moi mal, Johnny, 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 moi j'aime l'amour qui fait boum.
Il va lui faire mal, il va lui faire mal, il va lui faire mal, il va lui faire mal.
Il n'avait plus que ses chaussettes, des belles jaunes avec des raies bleues. Il m'a regardé d'un œil bête, il comprenait rien, le malheureux. Et il m'a dit l'air désolé, je ne ferai pas de mal à une mouche. Il m'énervait, je l'ai giflé et j'ai grincé d'un air farouche. Me fais-moi mal, Johnny, 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 je suis pas une mouche. Fais-moi mal, Johnny, 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 moi j'aime l'amour qui fait boum.
Vas-y, fais-lui mal, vas-y, fais-lui mal, vas-y, fais-lui mal, vas-y, fais-lui mal.
Voyant qu'il ne s'excitait guère, je l'ai insulté sauvagement. J'y ai donné tous les noms de la terre et encore d'autres bien moins courants. Ça l'a réveillé aussi sec et il m'a dit, arrête ton char, tu me prends vraiment pour un pauvre mec. Je vais t'en refiler de la série noire. Oh, tu me fais mal, Johnny, 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 pas avec les pieds. Si, tu me
en
fais
tête
mal,
à tête.
Johnny, 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 j'aime pas l'amour.
En corps à corps.
Il avait mal, il avait mal.
En cœur à cœur.
Il a remis sa petite chemise.
En pied.
Son petit complet, ses petits souliers. Il est
en
descendu l'escalier.
En
laissant une.
En sexe. À sexe.
Pour les voyous de cette espèce.
En toi sur moi. En quelques temps.
Entrer
en toi.
Et plus jamais je ne
en trou à trou.
Fais-moi mal, Johnny, Johnny, Johnny,
en lèvres à lèvres. En tour de chauffe, en transe étrange, entendre ton souffle en spasme et séisme, essoufflé, suintant, en sueur sentante, en transe de toise, en aisselle à aisselle, en cœur à corps, en fièvre ardente, en bite à chatte, en poil à poil, en cœur et mime, en traversant, en claquement de fesses, en mordant ta poitrine, en ton sein ton travers, en te dévorant avec mes dents, en te fourrant avec mes doigts, en tendant mon sexe dans ta bouche, en libérant mon sexe dans ta bouche, en léchant ton sexe avec ma bouche, en laissant nos sexes dans nos bouches, en cœur et encore. En souffle essoufflé, en explosion à répétition. En corps à corps, en lèvres à lèvres, en peau à peau, en tête à sexe, en aisselle à bouche, en pied à cou, en sexe à tête, en bite à bouche, en poil dans bouche, en sexe à poil, en sein à trou, en tête à corps, en fièvre à chatte, en lèvres humides, en fesses à tête, les pieds sur terre, les pieds sur père, les pieds sur ta tête, en tête à queue, en apnée sur mer et sur père à queue, en pied de biche,
En ton sexe serre, en ta bouche chevelure, en ta bite élan et ta fesse renard, tes pieds sur ma mère, tes pieds devant ma mère, tes pieds dans la terre et ton sexe mouillé devant les pieds de ma mère. Les pieds sur terre, sexe, mère, tête, œil de verre, poil, pubis, anus et collection de salive, nombril, pubis, encore et vulve, tendre fessier, gland, doigts, gants, tendre gland, tes doigts sur mon utérus, dans ma vessie, tes doigts se baladant dans ma vessie, survolant mon souffle et tirant ma respiration, tes doigts qui sécrètent, tes doigts qui savent, des gants, et ton gland qui sécrète, ta lèvre, ta dent, ta langue, le plat de ton palais, ton doigt dans ma chatte, tendre gland qui s'immisce, transe en mes lèvres humides, ton sexe qui m'enfile et enflamme mon clitoris, doigt dans ta bouche, sexe, lèvres, bouche, doigt, ventre, sexe, clitoris, testicules, battements, chair, sang, os, ventre, entrailles, bouche, lèvres, doigt, sexe, ventre, sueur, ventre, bouche, bouche, bouche. Je suis très émue de vous dire que j'ai bien compris l'autre soir que vous aviez toujours une envie folle de me faire danser. Je garde le souvenir de votre baiser et je voudrais bien que ce soit là une preuve que je puisse être aimée par vous. Je suis prête à vous montrer mon affection toute désintéressée et sans calcul. Et si vous voulez me voir aussi vous dévoiler sans artifice mon âme toute nue, venez me faire une visite. Nous causerons en amis, franchement. Je vous prouverai que je suis la femme sincère, capable de vous offrir l'affection la plus profonde comme la plus étroite, en amitié. En un mot, la meilleure preuve que vous puissiez rêver, puisque votre âme est libre. Pensez que la solitude où j'habite est bien longue, bien dure et souvent difficile. Ainsi, en y songeant, j'ai l'âme grosse. Accourez donc vite et venez me la faire oublier par amour où je veux me mettre. Je suis très émue de vous dire que j'ai toujours une envie folle de me faire baiser et je voudrais bien que ce soit par vous. Je suis prête à vous montrer mon cul et si vous voulez me voir aussi toute nue, venez me faire une visite. Je vous prouverai que je suis la femme la plus profonde comme la plus étroite que vous puissiez rêver, puisque votre bite est bien longue, bien dure et souvent grosse. Accourez donc vite et venez me la mettre.
Azou, brise du soir si bien nommée, seras-tu donc toujours cruelle avec moi ? De ta porte, jamais je ne m'éloignerai jusqu'à ce qu'elle ouvre ou que je périsse. Tes yeux sont pour moi le silex à étincelles, et tes lèvres entrouvertes sur tes dents blanches m'attirent vers elles et me fascinent. Ton sein a la rondeur des pêches d'Acermo, ta peau la douceur du duvet de la palombe. Tu as un petit tatouage bleu entre les sourcils, celui-ci au menton et ceux-là aux chevilles. Et les autres, les verrai-je jamais, Azou ? Défais ta chevelure sur tes blanches épaules, j'y cacherai ma tête comme la palombe sous son aile. Pourquoi me repousser chaque jour sans pitié? Quelles prières, quels cadeaux peuvent te fléchir? Ta voix me pénètre et fait fondre mon cœur, et tes hanches en marchant fait monter mon désir. Ô brise du soir, quelle crainte te retient? Si tu me prêtes tes lèvres rouges, tes lèvres humides te resteront. Si tu me laisses prendre ton corps, ton corps assouvi sera un corps à toi, et nos deux cœurs seront dans la joie.
Azou, le bien-aimé si bien nommé, comment pourrais-je te résister encore? Si mes yeux sont pour toi le silex à étincelles, ne vois-tu que la poudre est prête à s'enflammer et que je dénoue devant toi mes tresses noires ? Entre, referme la porte et pousse le verrou. Trop longtemps je fus insensible à ta voix. Pourquoi m'affliger en me parlant de cadeaux, puisque je veux te faire oublier ma cruauté ? Je te donnerai tout ce que tu peux désirer. À toi, ma langue fine et mes lèvres humides. À toi, l'étau de mes jambes croisées. Qu'importe si d'autres voient mes tatouages cachés, à eux je me vends, mais à toi je me donne. Désormais, Azou, tu es seul en mon cœur. Qu'attends-tu pour ouvrir ma ceinture ? Azou, bien-aimé, prends mes lèvres, nos bouches resteront confondues, nos deux corps ne feront plus qu'un et nos deux cœurs seront dans la joie.
Madame, quel est votre mot ? Et sur le mot, et sur la chose. On vous a dit souvent le mot, on vous a fait souvent la chose. Ainsi, de la chose et du mot, vous pouvez dire quelque chose. Et je gagerai que le mot vous plaît beaucoup moins que la chose. Pour moi, voici quel est mon mot, et sur le mot, et sur la chose. J'avouerai que j'aime le mot, j'avouerai que j'aime la chose, mais c'est la chose avec le mot, et c'est le mot avec la chose. Autrement, la chose et le mot, à mes yeux, seraient peu de chose. Je crois même, en faveur du mot, pouvoir ajouter quelque chose, une chose qui donne au mot tout l'avantage sur la chose, c'est qu'on peut dire encore le mot, alors on ne fait plus la chose. Et pour peu que vaille le mot, mon Dieu, c'est toujours quelque chose. Le mot est chaud. La chose, c'est le mot. Le mot est la chose. De là, je conclus que le mot doit être mis avant la chose, qu'il ne faut ajouter au mot autant que l'on peut quelque chose, et que pour le jour où le mot viendra seul, hélas, sans la chose, il faut se réserver le mot pour se consoler de la chose. Pour vous, je crois qu'avec le mot, vous voyez toujours autre chose. Vous dites si gaiement le mot, vous méritez si bien la chose, que pour vous, la chose et le mot doivent être la même chose. Et vous n'avez pas dit le mot, qu'on est déjà prêt à la chose. Mot, chose, la chose et le mot. Le mot, la chose. Être mis avant la chose, vous devez me croire à ce mot bien peu connaisseur en la chose. Alors voici mon dernier mot, et sur le mot, et sur la chose. Madame, passez-moi le mot, et je vous passerai la chose.
Il y avait déjà bien des années que de Combray, tout ce qui n'était pas le théâtre et le drame de mon coucher n'existait plus pour moi. Quand un jour d'hiver, comme je rentrais à la maison, ma mère, voyant que j'avais froid, me proposa de me faire prendre, contre mon habitude, un peu de thé. Je refusais d'abord, et je ne sais pourquoi, me ravisais. Elle envoya chercher un de ces gâteaux courts et dodus, appelés « Petite Madeleine », qui semble avoir été moulé dans la valve rainurée d'une coquille de Saint-Jacques. Et bientôt, machinalement, accablé par la morne journée et la perspective d'un triste lendemain, je portais à mes lèvres une cuillerée du thé où j'avais laissé s'amollir un morceau de madeleine. Mais à l'instant même où la gorgée mêlée des miettes du gâteau toucha mon palais, je tressaillis. attentif à ce qui se passait d'extraordinaire en moi. Un plaisir délicieux m'avait envahi, isolé, sans la notion de sa cause. Il m'avait aussitôt rendu les vicissitudes de la vie indifférentes, ses désastres inoffensifs, sa brièveté illusoire, de la même façon qu'opère l'amour en me remplissant d'une essence précieuse, ou plutôt cette essence n'était pas en moi, elle était moi. J'avais cessé de me sentir médiocre, contingent, mortel. D'où avait pu me venir cette puissante joie? Je sentais qu'elle était liée au goût du thé et du gâteau, mais qu'elle le dépassait infiniment, ne devait pas être de même nature. D'où venait-elle? Que signifiait-elle? Où l'appréhender? Et tout d'un coup, le souvenir m'est apparu. Ce goût, c'était celui du petit morceau de madeleine que le dimanche matin à Combray, parce que ce jour-là, je ne sortais pas avant l'heure de la messe, quand j'allais lui dire bonjour dans sa chambre, ma tante, Léonie, m'offrait, après l'avoir trempée dans son infusion de thé ou de tilleul. La vue de la petite madeleine ne m'avait rien rappelé avant que je n'y eusse goûté. Peut-être parce que, en ayant souvent aperçu depuis, sans en manger, sur les tablettes des pâtissiers, leur image avait quitté ces jours de Combray pour se lier à d'autres plus récents. Peut-être parce que de ces souvenirs abandonnés si longtemps hors de la mémoire, rien ne survivait, tout s'était désagrégé, les formes, et celles aussi du petit coquillage de pâtisserie, si grassement sensuelles, sous son plissage sévère et dévot, s'étaient abolies, ou ensommeillées, avaient perdu la force d'expansion qui leur eût permis de rejoindre la conscience. Mais quand d'un passé ancien rien ne subsiste, après la mort des êtres, après la destruction des choses, seules, plus frêles mais plus vivaces, plus immatérielles, plus persistantes, plus fidèles, l'odeur et la saveur restent encore longtemps, comme des âmes, à se rappeler, à attendre, à espérer, sous la ruine de tout le reste, à porter sans fléchir sur leurs gouttelettes presque impalpables l'édifice immense du souvenir. Et dès que j'eus reconnu le goût du morceau de madeleine trempé dans le tilleul que me donnait ma tante, quoique je n'eusse pas encore et dusse remettre à bien plus tard de découvrir pourquoi ce souvenir me rendait si heureux, aussitôt la vieille maison grise sur la rue où était sa chambre vint comme un décor de théâtre s'appliquer au petit pavillon donnant sur le jardin qu'on avait construit pour mes parents sur ses derrières, ce pan tronqué que seul j'avais revu jusque-là. Et avec la maison, la ville, depuis le matin jusqu'au soir et par tous les temps, la place où on m'envoyait avant le déjeuner, les rues où j'allais faire des courses, les chemins qu'on prenait si le temps était beau. Et comme dans ce jeu où les Japonais s'amusent à tremper dans un bol de porcelaine rempli d'eau de petits morceaux de papier jusque-là indistincts, qui, à peine sont-ils plongés, s'étirent, se contournent, se colorent, se différencient, deviennent des fleurs, des maisons, des personnages consistants et reconnaissables. De même maintenant, toutes les fleurs de notre jardin et celles du parc de Monsieur Swann et les nymphéas de la Vivonne, et les bonnes gens du village, et leurs petits logis, et l'église, et tout Combray et ses environs, tout cela qui prend forme et solidité est sorti, ville et jardin, de ma tasse de thé.
La pine et le con dans un lit.
La pine et le con dans la rue.
La pine et le con dans un tramway.
La pine et le con sur les grands boulevards.
La pine et le con à la campagne.
La pine et le con dans les forêts.
La pine et le con dans un autre lit. La pine et le con dans un autre lit.
Avec une insistance troublante, l'enfant continuait à fixer ses jambes croisées sous le bureau. Elle n'osait plus bouger, sentant qu'il épiait le moindre mouvement qui lui permettrait d'entrevoir l'intérieur de ses cuisses. Elle maudit la mode, qui à nouveau raccourcissait les jupes. Pour une fois qu'elle ne faisait pas son cours en pantalon, elle s'en voulait d'avoir cédé à la demande de son nouvel amant, prof de philo à Louis-le-Grand. Si encore elle avait mis un collant, mais non. Toujours pour lui plaire, elle avait mis le ridicule porte-jartel noir qu'elle n'acceptait de porter que pour pimenter leurs ébats. Et ce n'était pas tout, elle n'avait pas de culotte. Elle était sûre que ce maudit gamin l'avait deviné quand tout à l'heure, oubliant sa tenue, elle avait mis un pied sur sa chaise comme elle faisait souvent lorsqu'elle commentait les notes de ses élèves. Il avait une façon de la regarder qui lui donnait la chair de poule. Depuis la rentrée, elle n'avait pas fait très attention à ce garçon plutôt taciturne qui, dès le début, s'était installé au premier rang. Élève moyen, sans don ni problème particulier, il suivait les cours avec une indifférence qu'elle jugeait affectée. Assez beau, 13 ou 14 ans, des cheveux châtains frisés qui ne connaissaient pas souvent le peigne, des yeux très noirs et dont le sérieux surprenait dans le visage rond un corps enveloppé d'enfance. De taille moyenne, la démarche un peu nonchalante, vêtu comme tous ses camarades d'un jean, d'un t-shirt et d'un blouson, il ressemblait à tous les garçons de son âge. Il avait fallu qu'elle surprenne son regard pour se sentir au milieu de sa classe complètement nue. Elle avait rougi, comme cela ne lui était plus arrivé depuis longtemps. « Quel petit con, pensa-t-elle, il n'a jamais vu une femme ?» Dans un mouvement d'humeur, elle décroisa les jambes, puis le referma brusquement. « Ah, il m'énerve, mais je vais le foutre à la porte, vivement la fin du cours, encore un quart d'heure. Mais que fait-il? Mais pourquoi a-t-il mis les mains sous la table? Mais il se branle, mais j'en suis sûr qu'il se branle. Mais en voilà des façons en classe devant ses camarades. Très mollet, apportez-moi votre copie. » Ah, elle allait bien rire en le voyant se réajuster. Il se leva sans manifester la moindre gêne et sans le moindre désordre dans ses vêtements, prit son devoir et le lui apporta, nonchalant, silencieux sur ses baskets blanches. « Vous n'avez rien écrit, pourquoi ?» « Je n'ai pas compris la leçon. »« Il fallait le dire tout à l'heure. Restez après le cours, je vous expliquerai. » Mais qu'est-ce qui lui avait pris de dire ça? Mais elle était complètement folle. Rester seule avec un gamin obsédé. Elle pensa. « Mais c'est toi, ma pauvre fille, qui est obsédée. Où as-tu vu que ce gosse se branlait? C'est comme tes cuisses, il s'en fout de tes cuisses. » Soulagée, elle écarta délibérément ses jambes et fit semblant de lire. Elle crut entendre le gamin avaler sa salive. Elle sentait son regard fouiller son entrejambe, écarter ses lèvres, se fixer sur son clitoris et s'enfoncer à l'intérieur de son ventre. Elle ferma les yeux, sa bouche s'entr'ouvrit, ses seins tendus lui firent délicieusement mal, elle avait une envie folle de faire l'amour. Elle rouvrit les yeux et ses jambes. « Je suis une salope, se dit-elle, mais qu'est-ce que j'ai besoin de provoquer ce pauvre petit? Les autres vont finir par s'en apercevoir. » Le cours se termina sans incident. Dans le brouhaha habituel, les élèves rangèrent leurs affaires et sortirent en se bousculant et en criant. Trémollet resta assis. Le brusque silence qui s'abattit sur la salle de classe ramena un peu de lucidité dans son esprit, mais la violence de son désir balaya toute prudence. Elle alla s'asseoir dans le fond de la classe. « Venez près de moi, Trémollet. Apportez votre livre et vos cahiers. » Toujours avec nonchalance, le garçon s'approcha et s'assit auprès de son jeune prof de maths. « Qu'est-ce que vous ne comprenez pas, mon petit Trémollet ?»« Ça. » Et il mit sa main sur la cuisse de la jeune femme. « Ça, » dit-elle d'une voix étranglée en prenant la main aux ongles rongés et en la guidant sous sa jupe. Ensemble, leurs deux mains atteignirent la peau douce au-dessus du bas. Les doigts du gamin s'y enfoncèrent méchamment. « Arrête, tu me fais mal !» Les doigts progressèrent et s'arrêtèrent à la toison humide. « Mais pourquoi t'arrêtes-tu »« On ne peut pas rester ici, ils vont venir faire le ménage. »« C'est vrai, j'oubliais. Où veux-tu aller ?»« Venez, je connais un endroit tranquille. » Il porta à ses narines ses doigts imprégnés de l'odeur de la femme. « J'aime bien, ça sent bon. » Précoce en plus, pensa-t-elle. Elle prit les copies sur son bureau, les fourra dans le cabas qui lui tenait lieu de porte-document, suivit Trémollet et ferma la porte. Il paraissait connaître le vieux lycée de fond en comble. Il montait, descendait, tournait à droite, puis à gauche, traversait une cour de cuisine, un réfectoire, s'arrêtait enfin dans une porte et se tournait vers son professeur essoufflé. « C'est ici, » dit-il en poussant la porte.
Variation.
Le plaisir selon Épicure.
Un énième extrait des Ritales de Cavanna.
Déshabillez-moi de Juliette Gréco.
Une valse issue du recueil Petite Mort.
Un extrait de Le Noir est une couleur de Griselidis Réal.
Premier cri, un documentaire d'Anna Le Serre.
Laisse-moi t'aimer, un autre texte du recueil Petite Mort par Tiphaine.
Un extrait de la brochure Feu au cul, disponible sur infokiosque.net.
Fais-moi mal, une chanson de Boris Vian interprétée par Jeanne Moreau et Boris Vian.
En toi, extrait de Petite Mort.
Correspondance entre Georges Sand et Alfred de Musset.
Mrida Ait Atik et ses poèmes parus dans Les Chants de la Tassaout.
Le mot et la chose, poème de l'abbé de la Ténian, interprété par Je peux.
La fameuse Madeleine de Proust.
Le vent en poupe avec Lapine et le con.
Le début d'un conte pervers de Régine Desforges.
Et pour introduire le prochain thème de variation,
la mort,
voici un autre texte de Tiphaine intitulé
Dans le silence.
Rendez-vous mardi 17 avril à 11h.
Et dimanche prochain à 13h pour la rediffusion.
Salut, salut.
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 Vous êtes bien installé ?
Oui. C'est parti pour le décollage.
1, 2, 3, 4.
Des textes.
Bibliographie.
Source.
La bibliographie de variation.
De nos ébats, de nos oublis, de nos évasions, survit le souffle, je sens le foutre, la sueur, l'effluve sans fin de nos corps ensevelis sous le silence. De nos orgasmes tu gis sans mots sur mon corps, tu as fléchi, tu t'ébahis, je m'enfonce encore plus dans le désir, il est tard. Je suis paumé et je m'enfonce, tu t'es livré et je t'emballe. Je m'abandonne et tu désires, je touche, tu râles, deux corps, tes doigts, nos bouches, encore, tu t'oublies, aussi le silence. La force nous a surpris, j'ai joui, tu as joui, nous avons joui, ensemble, mort de jouissance, mort de nos petites morts, encore, le silence. Respire. Je perds l'essence, je te sens, tu t'évades, tu as joui, je suis morte, encore. J'ai joui, tu as savouré la mort sans attendre, nous sommes deux encore. Nous sommes enlacés dans nos petites morts, oubliant même le sens du temps, la voix de nos corps en dilettante, sans force, étalés là, certains que ce ne sera pas la dernière, et enterrés dans nos désirs, si forts, si denses. Nous mortels, nous sommes sensiblement mortels, nous sommes vivants tellement nous sommes mortels, je voudrais mourir dans tes bras, je voudrais mourir au son de ta voix, je voudrais ta voix et tes bras si je meurs, encore, dans le silence. C'est décidé, c'est cela. Si je meurs, je n'aurai pas la force d'en oublier ta voix, tes bras et tes petites morts à toi, encore, dans le silence. Je t'aime.
Variation.
Variation.
Poésie conjuguée. Politique conjuguée. De la poésie conjuguée. Du politique.
Mise en voix.
Mise en bouche. La poésie sauvage ou l'ivresse des mots. La poésie sauvage ou l'ivresse des mots.
De la poésie qu'on débouche.
Poésie qu'on débouche. Du politique qu'on éclabouche.
Du politique qu'on éclabouche. Tous les troisièmes mardis du mois à 11h.
Et rediffusion le dimanche à 13h.